Raphaël Van Stenberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit international, chercheur qualifié FNRS à l'UC Louvain. Ce jeudi, Israël et l'Afrique du Sud s'affrontent devant la plus haute juridiction de l'ONU après que Pretoria a accusé Jérusalem d'actes génocidaires à Gaza, des accusations qualifiées par les Israéliens de diffamation sanglante. Alors pour commencer avec vous, remettons les choses dans leur contexte. Quel est le rôle de la Cour internationale de justice ?
Donc la Cour internationale de justice, c'est l'organe judiciaire donc des Nations Unies, donc c'est un organe qui va statuer sur principalement donc la responsabilité des États lorsqu'il y a donc des violations du droit international. Il y a cette compétence qui est une compétence qu'on appelle contentieuse, donc statuer sur la responsabilité des États, mais également une compétence consultative. La Cour rend des avis juridiques donc sur des questions de droit international. Ces avis ne sont pas contraignants, contrairement aux jugements, aux arrêts qui sont rendus par la Cour.
Alors, dans ce cas précis, on parle de génocide. Comment définissons-nous un génocide devant la Cour internationale de justice ?
Alors, vous savez qu'il y a une convention relative à la prévention, donc à la punition du génocide, et cette convention donc donne une définition de génocide, une définition qui est bien restée actuellement, qui est consacrée également dans le statut de Rome, qui établit la Cour pénale internationale. Et le génocide résulte de la commission d'un certain nombre d'actes matériels. Par exemple, l'acte matériel, c'est le meurtre des membres d'un groupe. Et alors, on parle de groupes spécifiques, quatre types de groupes, groupe national, ethnique, racial ou religieux. Donc il faut un acte matériel, par exemple le meurtre donc du membre d'un groupe, des atteintes à la capacité mentale, des atteintes physiques à un membre du groupe et d'autres actes matériels. Mais ce qui est vraiment spécifique à l'acte génocidaire, c'est l'intention de son auteur, qui doit être une intention spécifique, celle de détruire en tout ou en partie ce groupe, donc un de ces quatre groupes et uniquement ces quatre groupes. Donc on n'y inclut pas, par exemple, le groupe, un groupe politique ou un groupe culturel, national, ethnique, racial ou religieux.
Vous l'avez dit, la Cour internationale de justice est un organe de l'ONU. Est-ce qu'il existe une sorte de droit de veto comme il peut y avoir au Conseil de sécurité ?
Donc il n'y a pas de droit à veto au sein de la Cour internationale de justice. Vous avez 15 juges. C'est vrai que vous avez des juges de la nationalité des États qui ont ce pouvoir de veto. C'est membre permanent du Conseil de sécurité. Et donc, il n'y a pas de veto. C'est un arrêt qui est pris par la majorité des juges. Il faut qu'il soit pris par la majorité donc des juges.
Comment sont choisis ces juges ?
En réalité, les juges sont désignés donc à la fois par l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, donc ces deux organes doivent voter et les juges sont désignés à la majorité absolue au sein de chacun de ces organes pour une durée de 9 ans, sur proposition du coup des États membres des Nations Unies.
Et du Conseil de sécurité donc ?
C'est ça, et du Conseil de sécurité bien entendu, il faut vraiment l'approbation majorité absolue au sein de chacun de ces deux organes.
Alors, on l'a dit, Israël est accusé de génocide. Concrètement, que risque Israël en se présentant face à la Cour internationale de justice ?
Alors, il faut distinguer deux procédures. Pour l'instant, nous sommes dans une procédure qui est une procédure de mesure conservatoire, c'est-à-dire que la Cour peut indiquer une mesure conservatoire en attendant le règlement du litige, donc le règlement au fond de l'affaire, qui aura lieu beaucoup plus tard. Donc, si on se situe au niveau des mesures conservatoires, la Cour peut rendre ses ordonnances, une ordonnance qui est néanmoins quand même contraignante. Donc, parmi les mesures qui sont demandées par l'Afrique du Sud, peut-être qu'on y reviendra, c'est la cessation des opérations militaires israéliennes. Et donc, ce serait une mesure qui est contraignante, obligatoire, qui s'impose à Israël. Et si Israël ne respecte pas cette mesure conservatoire, Israël commet une violation du droit international. Par contre, s'agissant du fond du litige, là, il peut y avoir donc un arrêt de la Cour internationale de justice. Et si la Cour considère qu'il y a violation de la Convention sur le génocide, eh bien, il y a une responsabilité internationale de la part d'Israël, c'est-à-dire une obligation de réparer le dommage causé par cette violation. Et en l'occurrence, le dommage qui est causé par cette violation, c'est pas vraiment le dommage matériel subi par l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud n'a pas en soi subi le génocide, mais c'est réparer le dommage subi à la Palestine.
D'autres pays ont déjà fait face à ce genre d'accusation?
Oui, bien sûr, l'accusation de génocide est souvent utilisée de nos jours, à tort ou à raison. On peut prendre l'exemple du conflit entre l'Ukraine et la Russie. La Russie a considéré que justement les Ukrainiens étaient génocidaires au sens par rapport à un groupe spécifique, hein, les russophones des régions de Donetsk et Lugansk. Mais par exemple, à l'inverse, les Ukrainiens considéraient que les Russes étaient avaient une intention génocidaire, en tout cas étaient violés la convention sur le génocide en intervenant sur leur territoire sous la base de la convention sur le génocide. Donc oui, il y a déjà eu ces accusations, ces allégations de génocide entre des États.
Vous évoquez le conflit entre la Russie et l'Ukraine. En mars 2022, la Russie a refusé de comparaître devant la Cour internationale de justice. Le fait qu'Israël vienne se défendre à partir de demain, c'est un signal positif envoyé à la communauté internationale?
Oui, c'est important que l'on fasse confiance à l'organe judiciaire principal, donc des Nations Unies, et de faire entendre sa voix, de débattre juridiquement, de discuter de ses arguments et de montrer ses positions. C'est un débat juridique qui aura lieu devant des juges qui ont une grande expertise en droit. Donc c'est important, je pense, pour la justice internationale.
On l'a dit aujourd'hui, c'est donc aujourd'hui jeudi, c'est l'accusation de l'Afrique du Sud. Demain, c'est la défense d'Israël. Combien de temps cela va durer? C'est 2 jours?
Alors, ces 2 jours, c'est donc il y a eu ce jeudi entre 10h et 13h, donc les plaidoiries de l'Afrique du Sud, et puis demain, on aura la même chose avec les plaidoiries d'Israël. Israël donc va invoquer ses arguments pour finalement dire que les forces israéliennes et qu'Israël en général n'ont pas violé la Convention sur le génocide.
Donc demain, sous le coup de 13h, on aura le résultat, si j'ose dire, de cet affrontement entre Israël et l'Afrique du Sud.
Bon, il faudra un certain temps, bien sûr, parce que les juges seront délibérés et rendront cette ordonnance dans les quelques jours qui suivent, puisque cette ordonnance doit être rendue très rapidement. Il y a une question d'urgence. C'est d'ailleurs une des conditions pour indiquer des mesures conservatoires. Il faut qu'il y ait urgence parce qu'il pourrait y avoir un préjudice subi par, en l'occurrence, l'Afrique du Sud qui serait irréparable. Et il y a une urgence. Et cette urgence donc, est bien établie. Mais la Cour pourra rendre rapidement des mesures conservatoires.
Raphaël Van Stenberg, je rappelle que vous êtes professeur de droit international, chercheur qualifié FNRS à l'UC Louvain. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.